Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Dans Sporama ce soir, du football. Et c'est parti pour la deuxième édition de la Ligue des Champions féminines avec les qualifications zonales en attendant la phase finale prévue au Maroc. Le Royaume chérifien justement, qui va accueillir la Super Coupe d'Afrique des clubs chez les hommes où le Wydad de Casablanca sera face à la Renaissance de Berkane. Et puis au Bénin, Mathurin de Jacques est plébiscité pour un second mandat à la tête du football béninois. Nous parlerons de ces sujets bien notamment avec nos consultants en direct de Libreville au Gabon. Le doyen Jules Valentin Ngoué. Bonsoir Jules.
Bonsoir Élisée. Bonsoir à tous.
À Kinshasa, à RDC, nous avons Valdo Simon Yamba. Bonsoir Valdo.
Élisée, bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Amine Birouk est lui à Casablanca au Maroc. Amine, bonsoir.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Amédine Si nous rejoint depuis Columbus dans l'Ohio. Amédine, bonsoir.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Et puis, dans ce studio avec moi, Lawal Dine Kosouro qui m'a aidé à préparer l'émission. Bonsoir Lawal.
Bonsoir Élisée, bonsoir aux auditeurs de VOA Afrique.
Sporama, c'est parti. Football féminin d'abord, avec la deuxième édition de la Ligue des champions féminines de la CAF. En attendant la phase finale prévue en octobre et novembre prochain au Maroc, on joue les qualifications et la zone COSAFA a déjà livré ses deux représentants. Jules, ce sera les tenants du titre, les Sud-Africaines de Mamelodi Sundowns et les Zambiennes de Gruss Buffalo.
Élisée, avant d'en arriver à la représentation de la COSAFA, analysons d'abord l'ascension actuelle de cette zone sportive dans la hiérarchie africaine. Avec l'engouement que connaît en ce moment le football féminin sur le continent, la zone COSAFA, qui s'est brillamment illustrée lors de la dernière CAN au Maroc, a à cœur de montrer que le meilleur se fait chez elle, également dans les niveaux inférieurs que sont la formation, puis les clubs, que celle-ci alimente abondamment en jeunes pousses de qualité, rompues à l'exercice des fondamentaux, dans un contexte très concurrentiel dont profite au sommet l'équipe nationale, Fanion. En d'autres termes, là où les leaders traditionnels sur le continent, le Nigeria et le Cameroun, continuent à compter sur la prospection de la diaspora, l'Afrique australe, elle, bâtit logiquement son édifice en commençant par les fondations et non par la toiture. En déléguant au Maroc ses meilleurs représentants, le Mamelodi Sundowns, le champion en titre, et le Green Buffaloes, respectivement fournisseurs des nouvelles reines des nations sur le continent, l'Afrique australe tient à se maintenir durablement au sommet, n'en déplaise aux autres, en particulier à un Maroc aux ambitions tout aussi légitimes.
La zone UNAF connaît aussi ses qualifiés. Et Amine, outre l'ASFA, club du pays hôte, on aura également les Égyptiennes de Wadi Degla, vainqueurs 2-0 des Tunisiennes de l'AS Bank.
D'abord, il y avait un écart assez considérable entre les trois équipes engagées. Wadi Degla bénéficiant de l'ossature de l'équipe d'Égypte et surtout du bénéfice de la première expérience de la Champions League qui avait été organisée au Pays du Nil, où l'équipe égyptienne n'avait pas été ridicule. Alors que les deux autres équipes s'étaient arrêtées en chemin lors du tour préliminaire, déjà la saison dernière, que ce soit Rélizienne ou l'équipe de l'AS Bank de Tunisie, face à l'AS Far, et elle avait subi de très lourdes défaites. Sur le terrain à Agadir lors de ce tour préliminaire, cela a pu se vérifier puisque les Égyptiennes ont gagné à deux reprises, et notamment lors de la rencontre au coup près disputée ce samedi contre l'AS Bank 2-0, et les Tunisiennes n'ont jamais pu trouver la parade nécessaire pour stopper les offensives dangereuses de l'équipe égyptienne. Rélizienne a joué les comparses. L'équipe a été battue à deux reprises par les championnes d'Égypte et de Tunisie, et montre à quel point le football féminin en Algérie doit considérablement travaillé pour pouvoir rattraper le retard concédé face au club égyptien. Wadi Degla sera donc le deuxième représentant de la zone UNAF, puisque l'AS Far sera le club organisateur de cette compétition qui démarrera lors du mois d'octobre prochain au Maroc.
Un seul ticket, en revanche, est décerné dans la zone A de l'UFOA et c'est allé aux Libériennes de Determine Girl. Amédine, elles ont validé leur qualification après avoir battu 1-0 les Sénégalaises de l'USPA.
Oui, Élisée, les Sénégalaises de l'Union sportive des Parcelles Assainies ont perdu hein, le match qu'il ne fallait pas perdre puisqu'elles sont inclinées devant les Libériennes sur le score de 1-0. Il faut dire que les Sénégalaises avaient bien débuté hein, cette compétition car elles avaient tenu en échec les Maliennes du FC Mandé. Pourtant, les Sénégalaises effectuent leur baptême du feu puisque c'est la première fois qu'elles participent à cette compétition. Donc, elles manquent un peu d'expérience. Je pense que l'apprentissage va continuer. C'est comme ça en sport. Des fois, tu gagnes, des fois, tu perds. De toute façon, même si tu perds, il faut tirer les leçons pour pouvoir se relever. Et je pense que les Sénégalaises de l'Union des Parcelles Assainies vont le faire. Élisée.
Par contre, le tournoi qualificatif a démarré ce week-end à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire pour le compte de l'UFOA B. Lawal, 7 clubs sur la ligne de départ avec les Béninoises d'Espoir de Cotonou qui entrent en compétition demain face aux Nigériennes de l'Ice Police.
Oui, Élisée, c'est déjà un exploit pour les Béninoises d'être à ce stade de ces éliminatoires. Il faudra donc qu'elles bataillent très fort pour se retrouver donc qualifiées pour la phase finale. Et il est important de rappeler, surtout avec le renouvellement, sinon le plébiscite du président de la fédération, on doit pouvoir...
Il y a beaucoup fait pour le football féminin, il faut le dire.
Véritablement. Donc, on espère que sur cette lancée-là, les filles vont faire honneur à leur président et aux Béninois qui attendent véritablement que beaucoup soient, en fait, que le pays commence pas à émerger en matière de football féminin.
Voilà, pour l'UNIFAC, ça reste à confirmer si c'est au Cameroun. Alors, Valdo, comme à son habitude, cette zone joue toujours les retardataires.
Élisée, la zone UNIFAC est loin de suivre le rythme des autres zones. Sur ces terrains-là, il ne faut surtout pas compter. Avec la RDC qui n'envisage nullement l'organiser faute d'infrastructures, le Congo-Brazzaville et le Tchad n'en parlent presque pas. Donc, Élisée, ça se joue entre Équato-Guinéens et Camerounais pour organiser. Les qualificatifs de la zone centre et qualifiés sont représentants à la phase finale de la Ligue des champions féminines. Les deux pays se la jouent attentistes puisque aucun des deux n'a jusqu'à preuve du contraire eu le kilo de se prononcer. Contrairement aux autres clubs en course pour cette place en phase finale, la Guinée équatoriale a un avantage en misant sur l'expérience des Malabo Kings qui a remporté la première édition, quoique cette fois, elle doit faire avec des adversaires tels que Mazembe, Dame qui cherche à faire valoir son nom dans cette version et les clubs de la RDC s'investissent quant à ceux. Et au cas où il n'y aurait pas preneur, la CAF devra, j'estime, prendre les choses en main.
La saison des clubs est également lancée au niveau des hommes. En attendant les matchs du premier tour dont le tirage au sort a été effectué la semaine dernière, on assistera à la Super Coupe d'Afrique entre le Wydad de Casablanca, vainqueur de la Ligue des Champions, et la Renaissance de Berkham, victorieuse de la Coupe de la CAF. Amine, ce match aura lieu finalement au Maroc.
Cette rencontre de gala aura lieu au Maroc. Le communiqué de la FRMF a été formel il y a quelques semaines. La Confédération africaine de football l'avait confirmé lors de sa dernière réunion en Tanzanie. Et visiblement, c'était le choix du lieu exact de la rencontre qui devait être déterminé. Beaucoup de rumeurs circulent ici au Maroc, évoquent la ville de Laayoun pour cette rencontre. Or, pour le moment, rien n'a été confirmé. Il va falloir des aménagements au stade de Laayoun qui peut contenir jusqu'à 25 000 personnes pour qu'il puisse répondre au cahier de charge de la Confédération africaine de football. Et pour l'instant, ce stade ne figure pas dans les enceintes sportives habilitées à abriter des rencontres internationales selon la CAF. On doit se limiter au stade de Casablanca, de Rabat, de Tanger, de Marrakech, d'Agadir et de Berkane. Ce sont les 6 stades que la Confédération africaine de football avait qualifié. Donc, il va falloir attendre encore quelques jours pour avoir une information exacte sur le lieu de la rencontre qui opposera le Wydad de Casablanca, vainqueur de la Champions League, à la Renaissance sportive de Berkane qui a remporté la Coupe de la CAF.
C'est donc la toute première fois de l'histoire que deux clubs marocains s'affrontent en Super Coupe. Jules, et ce sera probablement sans Walid Regragui, l'entraîneur du WAC, pressenti pour remplacer Vahid Halilhodžić.
Élisée, l'affiche entièrement marocaine de cette édition de la Super Coupe africaine des clubs illustre clairement l'ascendant que le football du royaume chérifien a eu cette année sur le continent. Dans un passé assez récent, seule l'Égypte du National El Ahly, du Zamalek et de l'Arabe Contractor ont connu pareille fête. Mais en cette année de Coupe du Monde, la comparaison doit plutôt se faire dans le passé plus lointain, lorsque les Camerounais du canon de Yaoundé et l'Union de Douala s'accaparaient de tous les trophées de club de 1978 à 1981, préparant l'effectif extraordinaire qui allait revenir invaincu de la Coupe du Monde espagnole de 1982, pourtant logé dans une véritable poule de la mort avec l'Italie future vainqueur. Le Maroc se retrouve dans le même schéma, même si les temps ont changé et que les meilleurs joueurs marocains évoluent à l'extérieur. Mais la fédération marocaine est en train d'impliquer et d'honorer le football local en présentant l'entraîneur du Wydad, Walid Regragui, pour remplacer Ali Lourzik. En cette super coupe maroco-africaine, ces joueurs du WAC chercheront à lui permettre de fêter sa promotion en attendant une Coupe du Monde en novembre où son équipe évoluera, elle aussi, dans une véritable poule de la mort.
Celui de Berkane pourrait aussi rater ce match. Valdo, Florent Ibengue devrait s'engager avec le club soudanais d'Al-Hilal d'Omdurman.
L'entraîneur congolais ne sera pas sur les bancs des Renaissances de Berkane pour affronter les WAC dans un match qui peut être considéré comme le retour de la Coupe du Trône, cette fois-là en mode Super Coupe de la CAF. La victoire de Florent Ibengue en Coupe ne lui a pas empêché d'aller voir ailleurs. Élisée, Florent Ibengue et Berkane se sont séparés depuis peu et l'entraîneur congolais a rejoint le club soudanais d'Al-Hilal Omdurman, où il a signé un bail de 3 saisons. Après seulement une saison passée au Maroc, a sorti les 2 titres majeurs, à savoir la Coupe de la Confédération et la Coupe du Trône, Ibengue s'est donné un nouveau challenge au Soudan, cette fois dans la durée. Il a même déjà commencé à préparer son club pour la nouvelle saison sportive. Les défis au niveau national étant, sans nul doute, de conserver à nouveau les titres. Vu ses derniers résultats au Maroc, Florent Ibengue est surtout appelé à redynamiser Al-Hilal sur la scène continentale et les Congolais se présentent comme l'homme de la situation.
En attendant de connaître le stade qui va abriter cette grande affiche, Lawal, le football au Maroc semble damer le pion à tous les autres sur le continent, du moins au niveau des clubs.
Oui, Élisée, il faut dire que le Maghreb, de façon globale, a cette emprise sur le foot au niveau des clubs sur le continent.
Et aujourd'hui, la Libye.
Aujourd'hui, on a bien l'impression que les moyens mis en place par les responsables du foot marocain ont commencé par payer. Donc, le travail, ça paye. Et quand on y met les moyens et quand la volonté, l'abnégation également s'y ajoute, je pense que c'est tout à fait normal que le Maroc puisse être sur le toit de l'Afrique au niveau des clubs, même si au niveau de l'équipe nationale, ça ne prend pas comme on aurait aimé, malgré ce qui s'est passé avec le sélectionneur, qui a qualifié l'équipe pourtant pour la Coupe du Monde, mais qui est en train d'être éjecté de la tête de l'équipe.
Et voilà qui est clair. On rappelle une nouvelle fois que cette Super Coupe d'Afrique aura lieu le 10 septembre prochain au Maroc. Au niveau des sélections, on joue en fin de semaine le 2e et dernier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations. Compétition réservée aux joueurs évoluant sur le continent. Et dans la zone USA, on aura 3 affiches. Sierra Leone, Mali, Guinée-Bissau, Mauritanie et Sénégal-Guinée. À Médine, les Lions de la Teranga sont à 2 matchs de la qualification face à leur bête noire.
Tout à fait, Élisée, il faut l'avouer, les poulains de Papio auront fort à faire puisque le Sélection national a barré la route lors des 3 dernières éditions. D'ailleurs, c'est une revanche à prendre face à cette équipe de la Guinée. C'est pourquoi d'ailleurs le staff technique a pris cette double confrontation très au sérieux, car les Lions ont effectué une très bonne préparation en participant d'abord au tournoi de la COSAFA en Afrique du Sud et en participant également aux Jeux islamiques. Il faut dire que les Sénégalais qui reçoivent les Guinéens ce week-end tenteront de faire un bon résultat lors de la première match avant d'aller négocier la seconde match, puisque la qualification est l'objectif principal. Et pour cela, il faut vaincre le signe guinéen, pardon, pour ne pas dire le signe indien, Élisée.
3 places à prendre également dans la zone UFOA B avec des chocs comme Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Togo, Niger et Ghana, Nigeria. Même nombre au centre où, entre autres, Valdo, la RDC jouera sa qualification face au Tchad.
Effectivement, Élisée, le Tchad, c'est l'adversaire en face de la RDC qu'il faut éliminer afin de s'offrir une place à la phase finale du championnat d'Afrique des Nations. Et c'est sur un terrain neutre que se jouera ce duel. À la RDC d'aller chercher un bon résultat au match aller en terre camerounaise le 28 août avant les matchs retour à Kinshasa le 4 septembre au Stade des Martyrs. La sélection de la RDC sous la houlette du sélectionneur Otis Ngoma Kondi a démarré avec la dernière phase préparatoire à Kinshasa avant de s'envoler pour le Cameroun. Les techniciens congolais a retenu de ces deux matchs amicaux joués contre le Diable Rouge du Congo-Brazzaville 25 joueurs pour cette double confrontation contre le Tchad. Pour son retour aux commandes d'une sélection de la RDC, Otis Ngoma se montre confiant avant la première épreuve dont l'issue sera déterminante pour envisager les matchs retour à Kinshasa, match qui déterminera sans nul doute de la qualification au nom des Léopards à prime de la RDC à la phase finale du championnat d'Afrique des Nations.
Merci Valdo. Le Cameroun et la Guinée équatoriale vont aussi disputer une place. Jules, une double confrontation qui promet.
Oui Élisée, la confrontation est surtout passionnée en Guinée équatoriale où les matchs contre le Cameroun sont toujours vécus comme des événements majeurs, quelles que soient les catégories concernées. La faute plus aux problèmes de voisinage particulièrement sensibles en Afrique centrale et aux rapports de force démographiques, économiques et sportifs à l'avantage du grand voisin. Mais durant la rencontre sportive, les tensions ne concernent pas l'ère de jeu. Les résultats, eux, n'impactent que les quartiers. Les progrès sportifs et les résultats engrangés par l'équipe Fanion de Guinée équatoriale dans les phases finales de la CAN depuis 2012, où en 3 participations, elle a toujours au moins passé la phase de poule, se payant au passage le scalpel des gros cylindrés comme le Sénégal, la Tunisie ou l'Algérie, a encore exacerbé les passions. Mais pour ces matchs annoncés, nous sommes dans le contexte du CHAN, une compétition réservée aux seuls joueurs locaux où les pronostics vont varier en fonction de la densité des habituels binationaux qui remplissent souvent les formations guinéennes. S'ils sont nombreux, les rencontres seront très disputées. S'ils le sont moins, le Cameroun aura un léger avantage. Mais le résultat final dépendra surtout de la qualité de la préparation.
Le dernier ticket de cette zone se disputera entre le Congo-Brazzaville et la Centrafrique. Pour les autres matchs, on aura au centre-est Éthiopie-Rwanda, Tanzanie-Ouganda et Djibouti-Soudan. Au sud, l'Angola joue l'Afrique du Sud. Le Botswana affronte Madagascar et le Malawi va croiser le Mozambique. À noter que les matchs retour auront lieu la semaine prochaine. Direction le Bénin pour terminer cette émission et pour dire que Mathurin Gushakus a été reconduit à la tête de la Fédération de football. C'est à l'issue de l'Assemblée générale élective qui s'est tenue à Porto Novo. Les délégués ont renouvelé leur confiance à l'unique liste en compétition à l'unanimité. Lawal, c'est sans surprise, mais le chantier est vaste.
Élisée, il fallait s'attendre à cette réélection, ce plébiscite de Mathurin Deschacus. Quand on regarde un peu ce qui se passe et sa nouvelle dynamique, on a bien l'impression que rien n'est encore fait. Il y a beaucoup à faire. Et d'abord, en commençant par la direction technique nationale, il a dit lui-même, en modernisant le championnat de ce pays et en aidant donc l'équipe nationale de toutes les catégories à performer, parce que depuis qu'on a commencé par voir cette équipe à la tête de la fédération, l'équipe a du mal à faire des prouesses au-delà.
Toutes les équipes nationales.
Oui, toutes les équipes nationales, justement. Et au-delà des performances de la CAN, quand on se rappelle que ce n'est pas ce bureau qui a qualifié le pays, mais les performances sont à l'actif de ce bureau. Et il faut espérer que Mathurin Deschacus et son équipe puissent moderniser le foot béninois et faire en sorte que le championnat soit plus professionnel.
Et aussi œuvrer pour avoir de vrais centres de formation.
Oui, les centres de formation, il y en a quelques-uns. Mais on n'a pas encore senti l'implication de la fédération dans ces centres-là. C'est des centres privés, individuels, et c'est les individus
dont
qui ont ces centres-là.
La
formation laisse à désirer. Tout à fait normal. Et aujourd'hui, si on a une direction technique nationale et qu'on s'implique dans la formation en aidant ces différents centres, ne pas chercher à créer d'autres centres, mais renforcer ceux existants afin de leur apporter les moyens nécessaires pour véritablement sortir des champions. Je crois que tous ces chantiers, si on les prend au sérieux, le Bénin pourra commencer par performer. Et comme le guépard qui est assez rapide de tous les fauves, qu'on va rapidement obtenir les performances, surtout suite au changement de nom qui est passé au guépard. On espère que la rapidité dans les performances va également suivre Élysée.
Et voilà qui est dit. Le patron de Hofmas, comme vous l'avez dit, reconnaît avoir échoué dans l'installation de la direction technique nationale et assure au passage que ce sera son dernier mandat. On l'écoute.
Le Bénin a changé. Nous avons économisé pour les 4 ans près de 2 millions de dollars sur le fonds de fonctionnement de la fédération. À l'époque, jusqu'à mon arrivée, les réunions des ligues départementales se faisaient dans les bars. La première fois de l'histoire du football béninois, nous avons construit 12 bureaux de ligue dans chaque département. Là où j'ai échoué, c'est que je n'ai pas mis en place réellement la direction technique nationale. Ça, j'endosse la responsabilité. Mon premier chantier, ce serait de concevoir avec le ministère des Sports la direction technique nationale du football du Bénin. J'ai pris avec mon comité exécutif de faire encore pour les 4 ans qui arrivent 2 ou 3 centres techniques de football des jeunes. Moi, c'est mon dernier mandat, je peux vous le rassurer.
Ahmedine Sy, peut-on faire du football dans un pays sans une direction technique?
Non, Élysée, on ne peut pas faire du football ou réussir à avoir de bons résultats dans un pays sans une direction technique nationale. C'est clair, net et limpide, car une direction nationale, c'est la chef ouvrière du football quand même, car c'est à elle d'organiser tout, tout le football dans le domaine technique. Je parle dans le domaine technique seulement. Mais comme on est en Afrique, où des pays marchent parfois par la tête, on voit du n'importe quoi. C'est vraiment dommage. Mais je peux citer l'exemple du Sénégal, qui dispose d'une direction technique, qui a à sa tête un directeur technique assez compétent, qui a réussi à mettre en place des techniciens dans toutes les sélections, que ce soit au niveau des U20, des U23, des U19, des U17 et des U15, l'équipe nationale féminine, l'équipe nationale de Bistoke, etc. Mais cela n'a pas empêché aux observateurs avertis de le critiquer, car il est plus présent à côté de l'équipe nationale A, qui est certainement la vitrine du football sénégalais, mais on le traite des fois de mercenaire. Cela veut dire tout simplement qu'il y a un réel problème à ce niveau, Élysée.
En marge de cette assemblée, le patron du football béninois a demandé au ministère d'entériner le projet de changer le nom des écureuils en guépard. Amine, le changement de nom peut-il avoir un impact sur le résultat d'une sélection?
Je ne pense pas qu'un changement de pseudonyme changera radicalement la donne concernant la sélection béninoise de football. Qu'il s'appelle écureuil ou qu'on change de dénomination ne va rien faire évoluer. Ce qu'il y a lieu peut-être de transformer, de modifier, c'est tout l'environnement du football béninois. Il va falloir que la sélection béninoise puisse travailler à plus long terme, à court terme, pérenniser le boulot qui a été effectué avec Michel Lussuyer il y a quelques années, avec évidemment comme point d'orgue la CAN 2019, et puis travailler dans les catégories inférieures, les sélections de jeunes, et surtout faire en sorte que le championnat local puisse se professionnaliser davantage, que les clubs puissent participer davantage aux compétitions africaines et qu'elles puissent y briller de façon à avoir un réservoir plus important de joueurs, faire en sorte que ces joueurs puissent s'expatrier, avoir les meilleurs joueurs expatriés pour faire évoluer une sélection qui est appelée peut-être à jouer les premiers rôles dans les prochaines années. Changer de dénomination, vous savez, le Maroc, avait appelé sa sélection nationale à partir de 83 Lions de l'Atlas. Combien de titres en compétition continentale? Combien de cannes remportées depuis lors? Ça évoque juste le fait que c'est un peu de la mythologie, c'est un peu dans le psychisme de nos Africains. Après, je ne pense pas que ce sera une évolution considérable. Quoi qu'il en soit, je pense qu'en ayant de bonnes orientations, en travaillant en profondeur ce football, le Bénin pourra avoir la sélection qu'il mérite.
Sporama, c'est fini. Merci de nous accorder une fois votre temps lundi prochain pour le même exercice. Au revoir.